Je prends le temps de longuement m'étirer pendant qu'Alice me toise sévèrement. D'une main, je me frotte le visage, à moitié avachi sur son canapé. Je squatte son appartement depuis ma séparation, parce que personne ne veut louer un bien à une pauvre fille célibataire et chômeuse. Pfff, les propriétaires sont pathétiques. Tu as envoyé le dossier ? Je l'ignore délibérément. Non pas que j'ai envie de l'emmerder un peu plus chaque seconde, mais parce que je suis vexée qu'elle me pense capable d'oublier une date pareille. June, je te parle, putain ! Les mains sur les hanches, elle me regarde comme si elle s'apprêtait à gronder un gosse. « Oui, j'ai envoyé le dossier hier à midi comme prévu !» râlais-je en levant les yeux au ciel. Elle souffle, relâche ses mains le long de son corps et tourne les talons en marmonnant. « J'ai l'impression d'avoir une gamine en pleine crise d'ado, alors que je déteste les enfants !» hurle-t-elle en claquant la porte de sa chambre. Je ronchonne dans ma barbe en me levant. Bon, d'un côté, elle n'a pas tort, mais il y a l'art et la manière de dire les choses. Une vague de stress me ronge l'estomac lorsque je repense au dossier. Un dossier d'une extrême importance qui va probablement régir la suite de ma carrière au sein du design événementiel. On pourrait croire qu'il s'agit d'un dossier pour la location d'un appartement, mais non. Mon métier a bien plus d'importance qu'un logement, surtout quand on a une meilleure amie déterminée qui prend soin de vous pendant vos crises dépressives. J'avais décroché ce contrat lorsque je faisais encore partie des ateliers Paris, l'entreprise de Will. Il était mon patron et j'avais la chance d'être embauchée à la fin de mes études, avec Alice, dans l'une des agences les plus prisées de la capitale. Ce que je ne savais pas, c'est que le jour où je l'ai rencontrée, j'ai signé un contrat pour une descente aux enfers interminable, et malheureusement, je n'en suis toujours pas ressortie. Quand j'ai démissionné, j'ai supplié l'équipe de chez Mugler pour qu'ils me laissent une chance en tant que freelance. Je me suis pliée à toutes leurs exigences pour qu'ils acceptent au moins de jeter un coup d'œil à mon projet. Et finalement, ils ont fait mieux que ça, ils ont ouvert un appel d'offres national. J'ai été la première à m'inscrire dans l'espoir de récupérer le contrat que j'avais signé. Aujourd'hui, le dossier est envoyé et je prie chaque seconde pour qu'ils le retiennent jusqu'à la phase finale. Je sais que mon projet leur plaira. Ils l'ont vu en avant-première dans nos locaux lors d'une réunion à laquelle Will n'a pas pu se présenter. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'il revenait de notre appartement après avoir baisé Sacha, son associé, dans le lit conjugal. Ce projet, c'est la concrétisation d'années entières de travail acharné. Le pire dans tout ça, c'est qu'après avoir rendu mon dossier pour la maison Mugler, j'ai perdu toute trace de créativité. Comme si j'avais absorbé toute la fiole d'imagination qui flottait dans mon cerveau. C'est dans ces moments-là que je me demande ce que je vais faire, ce que je vais devenir. Principalement, ce que je vais devenir, en vérité. Avant, je passais tout mon temps libre à peindre ou à dessiner. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être vide. Vide de création, vide d'ingéniosité, vide d'inspiration, vide de sens. Bon sang, je sais qu'Alice a raison. Il faut que je parvienne à remonter la pente, à me remettre sur pied. Je soupire une nouvelle fois, puis finis par me lever pour aller récupérer un verre d'eau dans la cuisine. Alice traîne dans sa chambre, range et fait tomber un milliard de trucs sur le sol. Je sais que je l'encombre. Elle ne me le dit pas, mais je le sens. En même temps, je vis chez elle depuis 4 mois. Je sirote mon verre comme s'il s'agissait d'une liqueur forte. J'en aurais peut-être besoin, d'un peu d'alcool. Je secoue la tête. Non, June, ce n'est pas la solution. Pour la première fois de ma vie, je suis au chômage. Je n'ai plus d'appartement, plus de fiancé. Plus de situation stable et rassurante. Rien. Moi, June Bennett, pile électrique à plein temps, me retrouve totalement déchargée. Dans ma vie, j'ai toujours eu le cul bordé de nouilles, si je peux m'exprimer ainsi. De la chance dans les études, dans le travail, en amour. Enfin, c'est ce que je pensais. La vie a peut-être voulu me montrer que rien ne dure éternellement. La garce. 4 mois après avoir quitté Will devant l'hôtel, j'ai toujours envie de pleurer. Mais je n'en ai plus la force. À la place, je reste sur ce canapé en fixant le vide et en repensant à notre premier rendez-vous. Will aimait tellement faire les choses dans les règles de l'art. Un jour, il m'avait emmené dans un restaurant 3 étoiles aux abords de la Tour Eiffel. J'avais sorti ma plus belle robe noire et mes plus hauts escarpins. Nous étions en août, la température extérieure avoisinait les 25 degrés le soir, mais Will était vêtu d'un costard noir avec un nœud papillon. Sur le coup, j'avais trouvé ça incroyablement sexy, mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point il était parfaitement parfait. Quand vous passez les 5 dernières années de votre vie avec la même personne, que vous faites des projets de mariage, de maison, et que du jour au lendemain tout s'effondre, c'est une douleur que je ne souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Bien sûr, je réalise que je me voilais la face. Je voulais tellement garder ce cocon protecteur que je l'ai fait passer en priorité, lui et tous ses besoins. Et je me trouve pathétique d'avoir accepté ces pics continuels lors des galas, des représentations, des défilés dans le simple espoir de le mettre en valeur, lui. Cela a toujours été lui. Je n'étais qu'une manière de le rendre plus beau, plus intelligent, plus charismatique. Je soupire longuement, espérant chasser ces pensées matinales qui me plombent le moral depuis 4 mois. Je finis enfin par me lever, après de longues minutes à méditer sur ma vie éclatée, nulle, déprimante, bref. « Waouh ! Tu es debout ?» s'exclame Alice d'un air ironique. Je marmonne dans mon coin en préparant un café. Elle fait réchauffer une assiette de pâtes qu'elle a cuisinée en vitesse hier soir pour sa pause du midi. Alice a démissionné le même jour que moi et a trouvé une opportunité dans une autre agence. Elle ne s'est pas vraiment arrêtée, contrairement à moi qui me suis enlisée dans cette vie merdique. Dès qu'Alice part, je reprends une tasse de café. Peut-être qu'avec plus de caféine dans le sang, je réussirai à faire quelque chose de ma journée. Commencer par prendre une douche, par exemple. Face au miroir de la salle de bain, j'inspire longuement. Mes boucles rousses se battent en duel pour déterminer laquelle est la plus abîmée. Mes taches de rousseur sont devenues ternes et s'effacent presque de mon visage, et ma peau est plus blanche qu'un cachet d'aspirine. Et j'ai maigri, vraiment maigri. Dans le creux de mon oreille, j'entends la voix de Will qui me murmurait à quel point j'avais besoin de perdre du poids, qu'il me trouvait un peu trop grosse, un peu trop charnue. Je faisais une taille 40 à l'époque. Un corps robuste, sain. Pour Will, un corps défectueux, perfectible. Il détestait la cellulite qui habillait mes fesses, les poignées d'amour sur mes hanches, la rondeur de mes cuisses. Quand je sors de la douche, je ne traîne pas. Je ne sais pas si c'est la dose de caféine ou le fait qu'Alice a passé une demi-heure à m'incendier dans l'espoir d'une réaction de ma part, mais je trouve enfin la motivation d'aller me promener au jardin des Tuileries et d'entraîner Albert dans mon sillage. Le bras de mon vieil ami entoure le mien. Mes yeux flânent entre les arbres et les feuilles qui tombent. Mon esprit divague. Albert est mon grand-père d'adoption. Ses quelques cheveux grisonnants, trônant sur le haut de son crâne, son sourire amical, ses mains bourrues et ses petites chemises font de lui une source de réconfort et de tendresse dans ma vie. Comme le sirop au caramel qu'il me rajoute dans chacun de mes cafés lattés. Doux, sucré, et réconfortant. À 80 ans, il travaille encore dans son bistrot parisien, à quelques rues de l'agence Paris. Le café des Paumées était mon havre de paix à l'époque. Peut-être parce que quand je m'y rendais lors de mes pauses, j'y trouvais des gens dans ma situation, des êtres perdus qui cherchent leur route, mais qui s'y retrouvent en venant ici. « Tu as réfléchi au traitement ?» lui demandai-je dans l'espoir d'avoir une réponse positive. Ce qui est amusant avec lui, c'est qu'il n'écoute pas toujours quand les gens lui parlent. Il n'est pas sourd, non, loin de là. Simplement, il sélectionne les informations qui l'intéressent et y répond quand ça lui chante. Il refuse aussi d'avoir un téléphone pour me donner de ses nouvelles, sous prétexte que les ondes lui crameraient le cerveau. « Tu sais que tu n'as pas fait le deuil, ma chère Johnny !» Je fronce les sourcils et me reconnecte à la réalité. Pourquoi, dans un moment si paisible, choisit-il de discuter de ça ? Tu n'as pas répondu à ma question, rétorquai-je d'une voix fluette pour échapper à la sienne. Il ricane dans son coin. Sa canne bute contre un caillou qu'il dégage d'un coup sec avant de continuer notre marche. Sa petite moustache blanche frétille à cause du vent, mais je distingue surtout son doux sourire. Tu sais très bien de quoi je parle. Je décide de faire l'innocente et d'avancer en regardant le ciel bleu. En ce mois d'octobre déjà bien installé, le décor parisien se teinte de ses plus belles couleurs automnales. Nous avons de la chance que les températures extérieures nous permettent encore quelques balades ensoleillées. Quand Jeannette est décédée, je suis restée des années à me morfondre. Je n'avais plus personne à qui compter mes journées.